Allô, allô, bienvenue au Comedy Nerd Podcast. Je m'appelle Rachel Ellie, ça fait 25 ans que je fais l'humour en anglais et maintenant je commence en français, ça fait à peu près 2 ans que je fais l'humour en français. Je suis tellement heureuse de partager ma conversation avec Eric Preach. Can't stop, won't stop. Ça va bien?
Oui, ça va toi?
Oh, pas mal, pas mal. On est encore en lockdown ici, alors j'ai bien hâte de sortir de ça, mais...
On est encore en lockdown ici aussi. Do you want to do this in French or English?
Oui, en français.
Ah, parfait.
En général, quand on se voit, Preach, on parle jamais français, mais non. Je veux me forcer de parler français avec toi.
C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On parle rarement français quand on se voit. Même avec d'autres personnes aussi, je parle anglais. Je veux dire, avec Mike qui parle français aussi, je parle des fois anglais. Ça va varier. Mike, c'est pas mal un 50-50. Mike Ward, c'est pas mal un 50-50. Mais sinon, non, c'est juste parce que c'est plus rapide, essentiellement.
Oui. Oh non, c'est quand même... Mais pour moi, c'est parce que je pratique mon français. Mais en général, quand je parle avec des humoristes francophones, ils parlent anglais avec moi. Alors moi, je dois vraiment me forcer de parler français parce que eux, ils veulent pratiquer leur anglais.
Ben, tu sais, je veux dire, faut quand même faire une demande. Pour moi, c'est une demande formelle. Si tu veux pratiquer ton français, puis tu veux qu'on se voit puis qu'on se parle en français, mais à ce moment-là, je vais juste te parler en français. Ça, c'est pas un problème, tu sais.
Je sais que quand je t'ai rencontré, t'étais le doorman à Le Bordel. Parce qu'on a une expression en anglais que ça prend 10 ans d'être un overnight success. Et je sais qu'avant que tu faisais l'humour, tu étais aussi un danseur. Et je sais que maintenant, tu as des millions de followers sur YouTube avec tes podcasts. Tu fais la première partie pour... est-ce qu'on dit premier ou première partie?
Première partie.
Ouais. Première partie. Féminin, masculin, I'm working on it. Première partie pour Mike Ward. Aussi, tu as fait beaucoup de TV cette année, l'année passée. Et je me demande, et les gens qui te connaissent pas, est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé que tu travaillais comme doorman et finalement, tu étais full-time, travaillais comme humoriste. Qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu de tout ça?
Essentiellement, moi, je voulais faire de l'humour, mais la façon que j'allais faire de l'humour, c'est que j'allais commencer par refaire mon cours d'infirmier. So, avant de venir porter au bordel, je commençais le processus pour faire mon cours pour devenir un infirmier. Le but là-dedans, c'était de devenir infirmier, de ramasser du cash rapidement, puis de pouvoir faire des cours ici et là d'humour et pouvoir commencer à faire de l'humour. Pendant que j'attendais pour ce cours-là d'infirmier, que j'étais sur attente, il s'est présenté une occasion de travailler comme portier au bordel. À ce moment-là, j'avais comme un peu quitté le monde de la sécurité et du de la sécurité, du bouncer, du doorman. Tout ça, c'était un peu derrière moi. Puis
comment est-ce que c'est passé que tu avais ce job?
Et moi, j'étais un client. Et non seulement j'étais un client, des fois, je faisais des jobs de sécurité comme doorman là-bas quand il y avait des événements spéciaux. Donc là, le staff a commencé à parler d'y aller avoir des soirées d'humour. Déjà là, à soirée d'humour, I was sold. Tu comprends? J'étais comme I want it.
Oui.
C'était une porte d'entrée pour faire de l'humour, tu sais. Parce que le propriétaire, Luc, a dit à son staff, je vais faire des soirées. On va commencer à faire des soirées d'humour ici. Tu sais, il est en train de downplay son affaire, là. Il disait pas qu'il allait commencer à faire un comedy club. Il disait juste, on va avoir des petites soirées d'humour ici et là. Ça va être comme... il était vraiment en train de downplay l'affaire. Mais déjà là, quand il a dit soirée d'humour, j'étais comme, oh, OK. J'anime déjà des battles de danse. Est-ce que tu veux que j'anime tes soirées d'humour? Parce que je fais ça avec l'humour. Tout, ça peut vraiment marcher. Puis il était comme, ouais, non, ils ont déjà leur concept, sauf que, ouais, c'est ça, ils ont déjà leur concept. So, moi, je suis en train de penser, j'étais comme, OK, I need to have a foot in, faut que je rentre là. Mais qu'est-ce que je fais? T'as-tu un portier? Come on, bro, t'as besoin d'un portier, tu sais. Puis finalement, il fait comme, OK, ouais, est-ce qu'il y a pas de trouble? Je te reviens avec de quoi? Puis finalement, ils m'ont appelé dans leur bureau pour devenir le portier du bordel, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, j'étais comme, yeah, go, let's go all in. C'est là qu'ils m'ont expliqué, en fait, comme, listen, ça va être un comedy club, là. Ça va être quelque chose de gros, là. Tu comprends? Donc, on a besoin de quelqu'un qui soit à la porte. Pas un portier, genre un club, là, qui soit bête et tout. On veut quelqu'un avec de l'entre-gens, qui soit capable de niaiser avec le monde, qui soit capable de, tu sais, comme t'es la face du bas. De la place. Puis j'ai fait oui. comme, yeah, good, all in, c'est ce que je vais faire. So that's what happened.
De façon que, qu'il dit bonjour à tout le monde et au revoir, c'est le greetings, ça semble que c'est très important à Le Bordel. Et ça, c'est une raison que tout le monde aime aller au, à Le Bordel, même les humoristes, oui. juste pour passer du temps après un show.
Oui, essentiellement, la façon que j'ai compris ma job, c'est que j'étais la face, la première face que tu vois, c'était moi quand t'allais au bordel. Donc, tu sais, faut que je m'assure que tous les éléments, c'était pas juste de faire rire les gens, mais faut que tous les éléments du bordel soient on point. Faut que le service soit parfait, faut que le greeting soit parfait, faut que l'ambiance, faut que l'expérience, essentiellement, c'est une expérience aller au bordel, puis c'était ça. Donc, toutes les personnes qui travaillent au bordel, que ce soit de la cuisine, les personnes derrière du bar, les personnes qui servent, les humoristes, tout le monde fait partie de l'expérience du bordel. Puis moi, en étant le doorman là-bas, ben j'étais là. J'étais pas le doorman, j'étais la porte. Tu comprends? Je faisais partie de l'expérience. Puis c'est ça, c'est le premier truc. J'étais la première porte d'entrée à ça.
Oui, je me souviens, je faisais le open mic et je t'ai demandé comment est-ce qu'on dit vagina beat en français? T'as dit bal chinois. Ça, c'était notre première rencontre.
Des bal chinoises, ouais, c'est ça. Yeah. Non, mais j'étais là pour aider essentiellement. Fait que, tu sais, que ce soit un problème avec la bouffe, un problème avec quelqu'un qui gosse ou de l'humour ou traduire des blagues, j'étais là. Il y a d'autres personnes qui ont traduit des trucs. Des personnes comme, des personnes qui étaient, soit qui venaient de la France ou des personnes qui venaient des États-Unis, là, comme Daniel Tirado. Comment on dit telle affaire? Comment c'est mieux si tu dis ça comme ça? Tu sais, je veux dire, ça fait partie de l'expérience. C'est ça qui est le fun. Les gens sont relativement ouverts. En tout cas, au Québec, en humour, les gens sont généreux. Très généreux.
Ah oui. Est-ce que tu as fait de l'humour en anglais aussi?
Oui, je fais de l'humour en anglais.
OK.
Je fais de l'humour en anglais à Ottawa puis à Montréal aussi. Là.
Parce que être danseur, déjà, c'est différent d'être humoriste, mais infirmière. Infirmière, comment est-ce que... Quand est-ce que tu as décidé que tu voulais être infirmière?
Ben, tout le monde... À la fin de la journée, je veux dire, mon nom, c'est ça, je suis haïtien, all right? Fait que beaucoup de ma famille sont infirmiers, infirmières. Mon père était un infirmier, mes tantes étaient des infirmières, elles sont encore, j'ai des cousines qui le sont. Fait que j'ai toujours été autour de ça. Puis c'est un, tu sais, je veux dire, j'aime ça aider les gens. Donc, tu sais, ça rentrait dans la fonction, tu sais, aider, dans la fonction d'aide. C'est aider les gens qui sont dans le besoin. Fait que j'ai toujours été dans ça a toujours fait partie de moi essentiellement. Fait que tu sais, je vois pas que c'est si loin que ça de ma personnalité, puis ma façon d'aider, ma façon souvent de dédramatiser, c'est avec l'humour. Donc peu importe, l'humour m'aurait suivi peu importe où est-ce que je vais. Tu sais, j'ai vu mon père être infirmier, gagner sa vie comme ça. J'ai vu mon père élever deux enfants comme ça, puis fait que moi c'était quelque chose qui était très normal, right? Ma mère était agent d'administration, là, chose. Elle travaillait avec les chiffres des jardins. Les chiffres, c'est pas mon fort, les mathématiques, c'était pas mon fort. Donc c'est sûr que je me dirigeais plus vers l'aide, là. C'était vraiment mon truc. J'étais tout le temps le premier à vouloir aider des gens encore là.
Mais est-ce que je peux te demander quelque chose un peu ignorant de ma part? Tu sais que mon père est haïtien, mais j'ai jamais pensé qu'il y avait beaucoup d'infirmières qui sont haïtiens. Est-ce que ça, c'est un stéréotype?
Ben, je veux dire, au Québec, oui. T'es pas, je veux dire, t'es en Ontario, right?
Ouais, non, mais même, je suis allée en Haïti plusieurs fois. J'ai 5 cousins qui habitent en Haïti. Et je connais pas des infirmières.
Non, mais c'est un truc très nord-américain, mais je te dirais, si tu vas à New York, si tu vas en Floride, si tu vas à Atlanta, si tu vas à Boston, si tu vas, tu sais, c'est très côte est, puis très québécois.
Ok.
Il y a beaucoup d'infirmières qui vont être haïtiennes. Fait que si tu vas en Haïti, c'est pas nécessairement le cas. Si tu vas plus en Ontario, ben la plus grande population qui va être noire en Ontario va être issue du continent africain, mais des Caraïbes anglophones.
Ok. Right?
Barbados. Yeah. Tandis qu'au Québec, il y a une grosse population qui va être haïtienne, puis beaucoup, c'est un stéréotype, là, je veux dire, ouais.
Et on n'était pas connecté avec la communauté haïtienne à Ottawa du tout. Comme mon père, je pense quand il est parti, il avait 29 ans, il est allé aux États-Unis, après il est venu au Canada, mais il n'était pas en contact avec des Haïtiens au Canada. On allait à New York pour voir notre famille en Haïti, mais... J'avais pas des. Comme, je pense que tu es ma deuxième amie haïtienne.
C'est ça.
Yeah, c'est juste.
Déjà, juste le fait que tu n'habites pas dans la province du Québec change grandement le contact que tu vas avoir avec des Haïtiens. De plus en plus, il y en a, mais dans notre génération à nous, va en avoir, il y en a, et la génération plus haute, il y en a de moins en moins. Tu comprends?
Mais quand tu dis que ton papa prenait soin de toi, c'est intéressant parce que ma mère est américaine, mon papa était d'Haïti et je trouvais que c'était lui, si j'étais malade le soir, c'était lui qui prenait soin de moi. Il était beaucoup plus un caregiver que ma mère. Peut-être que c'est un stéréotype, mais ma mère était comme, elle a divorcé mon papa quand j'avais 13 ans, elle était comme, I'm going to party. Mais mon papa était toujours comme, il prenait vraiment, il y a un chien en arrière. Mais yeah, c'est un stéréotype. Mais aussi, des fois, je pense que mes influences humoristiques étaient juste parce que j'entendais du créole, j'entendais du français, je parlais français à l'école et anglais. Et la langage créole est vraiment drôle. Comme je me souviens, quand j'étais en Haïti, il y avait un gars sur un walkie-talkie, il disait « Olivier, ça passe en aboulé! » And it was like the language. La langage était vraiment... moi, j'étais vraiment différent de beaucoup de mes amis, mais je demande tes influences humoristiques. Est-ce que, comme quand tu avais 13 ans, 14 ans, est-ce que tu regardais le télé? Est-ce que tu voyais... ta famille était drôle?
Mes influences humoristiques, essentiellement, oui, il y a beaucoup de ça dans les Haïtiens. Je veux dire, quand mes oncles, mes tantes venaient à la maison, c'était tout le temps un party, ça parle fort. Il y a des jokes qui se donnent. Fait que c'est sûr que il y a une espèce de truc comme ça que je suis très proche de puis que je comprends. La façon, le storytelling haïtien qui est rempli d'onomatopées, de sons, qui est vraiment vivant. Tu sais, le suspense quand quelqu'un d'haïtien va te conter une histoire. Tu sais, c'est très, c'est important. C'est quelque chose qui était comme vraiment, ça m'a influencé. Sauf que, en grandissant, il y a comme eu une espèce de cassure, au début. Moi, je regardais beaucoup de comédies, beaucoup d'humoristes québécois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en grandissant. Samedi de rire, des émissions comme ça, Samedi de rire, des trucs comme Ding et Dong, Pauline Marthe, Yvon Deschamps. En grandissant, j'ai vraiment vu ça. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivé au primaire, cinquième année de primaire, en immersion, pour apprendre l'anglais. Puis mon professeur, John Keys, mon professeur, à ce moment-là, pour nous apprendre l'anglais, nous montrait souvent des émissions. Fait que j'ai vu Voyage of the Mimi, tu sais, des trucs comme ça. J'ai vu... Puis c'est lui qui m'a montré Fresh Prince of Bel-Air.
Oh, wow!
Ouais, fait que ça, c'était dans les années 90. Quand Fresh Prince
of Bel-Air... Mon père était obsédé avec Fresh Prince of Bel-Air.
Ben, c'est ça, c'est que là, il nous a montré ça, et là, j'ai comme fait un switch parce que le parallèle québécois de Fresh Prince of Bel-Air, c'est Watatatao. Puis une émission qui s'appelait Watatatao, puis c'était pas... La représentation était pas extra là-dessus, c'était joué un peu trop gros et tout et tout. Et là, pour la première fois, je voyais quelqu'un du monde qui ressemblait à mes cousins de New York, mes cousins de Boston, mes cousins de Floride, mes cousins d'Atlanta. C'est du monde que je pouvais relate en regardant la télévision, qui arrivait pas quand je regardais d'autres postes. Fait que là, à partir de ce moment-là, il y a un switch qui s'est fait. Où est-ce que, là, j'ai commencé à regarder Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters, Hanging with Mr. Cooper, In Living Color, the Keenan Ivory Wayne Show. J'ai commencé
Mad TV
à
un peu. Switch.
Pardon?
Mad TV.
Mad TV, exactement. Yeah. Les Mad TV, les Saturday Night Live. Fait que là, j'ai commis un switch où est-ce que là, c'était beaucoup plus américanisé parce que ça me ressemblait, parce que le côté américain me ressemblait. Puis souvent, on parle avec des Québécois, puis ils ont dit « Ah ouais, vous êtes américanisé, la façon que vous parlez, la façon que vous êtes. » Oui, on est américanisé parce que on se voyait pas à la télévision. Si je regardais le côté québécois, je suis conscient du côté québécois que j'ai. Je suis conscient que j'ai grandi dans cette province-là. Sauf que si je continue à regarder des médias, je me vois pas, je suis pas représenté, je vois pas ma réalité. Puis du côté américain, il l'a. Fait que j'ai été obligé d'avoir une hybride. Donc, le côté américain était vraiment beaucoup fort, surtout dans mon adolescence, où est-ce que tu cherches t'es qui, tu cherches un côté d'appartenance. Quand j'étais plus jeune, là, avant 10 ans, là... Je regardais, ça dérangeait pas. Mais quand tu veux t'affirmer, tu veux savoir t'es qui, là, ça commençait à compter. Et là, le côté américain m'appelait beaucoup plus. Les Death Comedy Jam, j'ai beaucoup un côté américain aussi, dans la façon que je fonctionne, même en français. Fait que c'est là que mes trucs, ils viennent. J'ai un côté fort américain, je suis fier du côté québécois que j'ai aussi, mais si je voulais avoir ma représentation, si je voulais avoir du monde qui me ressemble, il fallait que j'aille du côté américain. Donc, les deux, mes influences viennent de là.
Et quand tu étais chez toi, comme à 11 ans, 12 ans, quand tu as dit que tu regardais le télé, est-ce que c'était toi tout seul ou est-ce que c'était quelque chose que tu faisais avec ta famille?
C'est quelque chose que je faisais avec ma sœur. Je regardais la télé avec ma sœur, beaucoup. Fait que là, quand je suis rentré en immersion, pour vraiment avoir un bon... Ma sœur, c'est comme ma partner de langage, tu comprends? Quand j'ai voulu, je commençais à apprendre l'anglais, bon, on s'est dit, là, on parle juste en anglais. Avec les parents, on va parler français, mais on va juste parler anglais pour vraiment par faire notre langue. Quand on a appris le portugais puis on faisait de la capoeira, ben, on s'est dit, OK, là, entre nous deux, on va juste parler portugais. C'est pour mieux. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avec ma sœur. Même encore là, des fois, il y avait des émissions qu'on regardait pas, là. Elle était très Beverly Hills 90210, Entertainment Tonight. Moi, c'était le moment que je me levais.
Ils le font encore maintenant, mais c'est terrible. Tout le monde a des filters. C'est juste... Oh!
C'est pas la même chose. C'est pas le même hype. E.T. Canada, c'est comme... C'est weird. Mais, tu sais, elle regardait vraiment d'autres programmes. Quand elle rentrait dans son drama, là, je la laissais regarder ses drama things. Mais sinon, c'est ça. C'est quelque chose que je faisais souvent avec ma sœur.
Et est-ce que tu étais quelqu'un à l'école qui faisait rire? Tu cherchais the laugh? Ou est-ce que c'était juste quelque chose que... Peut-être avec tes amis... Ça, c'était par accident. Comme moi, je sais que j'étais... Des fois, des gens étaient vraiment irrités par moi parce que j'étais toujours on. Et, you know, just complètement obsédée à faire rire. Et finalement, ça fait 20 ans, j'ai calmé un petit peu, mais j'étais la personne... Mais je pense que c'était pas nécessaire toujours... j'ai parlé avec quelqu'un d'autre que c'était pour sentir de l'amour pour moi. Je voulais que les gens m'aiment et parce que je changeais d'école tout le temps, j'étais obsédée à, OK, la façon que tout le monde va m'aimer, c'est si je peux les faire rire. Même avec les bullies et tout ça. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas toujours comme ça pour les humoristes.
Moi, j'essayais pas de faire rire tout le monde. J'avais mes moments, par contre. C'est sûr que j'avais mes moments quand je voulais décrocher de l'école, sortir de l'école, mais quand... Le professeur était en avant, puis ça faisait genre 6 heures qu'on l'écoutait parler, puis qu'on était comme, you know what. Mon cerveau pouvait plus en prendre. Fait que c'est sûr que mon cerveau se dirigeait vers la blague. C'est un exutoire, c'est une place parce que je peux m'en aller vite, vite. Pour les bullies, j'avais différentes façons de dealer avec les bullies. Je veux dire, j'essayais de les laisser tranquilles. Après ça, pour me faire aimer des gens, j'avais comme accepté que c'est pas tout le monde qui allait m'aimer. Fait que ceux qui m'aimaient pis qui étaient mes amis, je les faisais rire. Mais les autres, je faisais juste les éviter. Après ça, je me rappelle qu'il y avait une instance où j'étais en primaire, en quatrième primaire. C'était la fin de journée pis le cours était plate. Très plate. Je clashais souvent avec ce professeur-là parce que c'était un Français de France pis il me donnait des cours d'anglais pis c'était, tu sais, il prononçait pas bien les affaires et tout pis... d'analogie. Lui-même, tu sais, quelqu'un qui t'enseigne l'anglais, qui parle pas anglais, en tout cas...
Yeah, là, non, ça marche pas.
C'est ça. Fait que là, je me rappelle que j'écoutais pas en classe, puis je suis en train de parler avec quelqu'un, puis je me rappelle, cette fois-là, il m'a dit « Ça va? Tu veux donner peut-être le cours à ma place? » Mais souvent, les professeurs, ils disent ça pour que tu fasses comme « Non, c'est correct, ça va, désolé. » Puis moi, cette fois-là, j'étais tanné, il était tout le temps sur mon case en plus, là, il était tout en train de... He was always on my case. Là. Tout le temps sur mon case. Puis là, c'est comme je me suis tanné. Il disait comme, bon, hein, tu veux peut-être donner le cours à ma place? Puis j'étais comme, ouais. Puis là, c'est comme, quand le oui est sorti de ma bouche, j'ai fait, ouais. Oh. Dans ma tête, je vais être comme, what the fuck are you doing? Mais là, je pouvais plus back up, tu sais, je pouvais plus... Oui. J'arrivais balls to the wall. Je pouvais plus faire comme, non, non, finalement, non. Ben, il a fait comme, ben, vas-y. Fait que je me suis levé.
Non.
En avant. Ouais, j'ai donné un cours, mais je faisais rire parce que j'avais pas de matière. Yeah. Là, je suis un gars en quatrième année primaire, là, j'ai pas de matière. Je l'ai pas la matière. Fait que j'ai décidé de faire à la place, c'est ben je vais vous faire rire. Mais j'aurais pas dit. Au début, j'ai commencé à l'imiter lui. Donc, j'imite le prof. People are laughing. Il essaye de pas rire, mais à un moment donné, je l'ai, là, tout le monde rit. Là. Après ça, j'imite d'autres profs, j'imite d'autres personnes. Puis je fais ça, là, ça a duré. 20 minutes, mais c'est les 20 dernières minutes de la classe. Puis finalement, la cloche a sonné. Puis c'était ça. Puis j'étais comme, ouh! Je me suis tiré du pétrin. J'ai jamais su combien... How long am I supposed to do this?
C'est incroyable que le professeur t'a laissé faire ça.
Fait que moi, il m'a... Ben, je veux dire, c'était comme une espèce de combat de coq, tu comprends?
Yeah.
C'était deux égos qui parlaient. Fait que lui, il a montré son égo. Il a fait comme, oh, tu veux donner le cours? Pff, moi, j'ai pas back down, j'ai montré mon égo. Oui. T'sais, c'était juste un combat. Fait qu'il m'a laissé, faire le cours par égo en espérant que je me plante. Mais cette fois-là, j'étais comme, I was on. Tu sais, quand t'es in the zone, cette fois-là, j'étais in the zone.
Je sais, en secondaire, il y avait une fille, j'avais changé d'école et son amie est venue dans la salle de bain. Elle a dit, Sarah Goff wants to see you out by the portables at lunch. Et elle savait pas que j'avais deux frères qui étaient plus âgés que moi et que mon papa était d'Haïti parce que j'ai sorti dehors et elle voulait avoir un fist fight avec moi. Et j'étais vraiment inspirée par Janet Jackson. Alors, je lui ai donné un coup de poing and I was like, what have you done for me lately? Ah, ah, ah. Et après ça, personne, il y a... Exactement. What was up with that?
That's funny.
Je t'ai vu à Club Soda quand t'as fait la première partie de Mike Ward pour Noir et aussi à Odyssey, salle Odyssey.
Oui.
Et c'est intéressant parce que entrer sur scène en avant de 2000 personnes ou 900 personnes, c'est pas tout le monde peut le faire et peut vendre leur performance. Et je trouve que t'as une confiance, t'as une énergie et une, ce qu'on dit en français, stage presence, présence de scène de quelqu'un qui fait l'humour pour 10 ans, même 20 ans. Hmm. Ça vient d'où, Preach?
Mais essentiellement, il y a aussi le fait que ça fait plus de 25 ans que je fais de la danse, que je suis sur un stage. T'sais, j'ai dansé aussi devant plusieurs personnes, ça vient de là. J'ai dansé dans des battles de danse, fait qu'il faut que tu aies une présence si je veux avancer. Faut que j'aie une présence de scène, faut que j'aie... C'est ça ma job en tant que quelqu'un qui fait des battles de danse, tu sais. Et ça, puis aussi, je forme des personnes à faire des battles de danse. Donc, le côté présence, le côté affirmation, le côté, tu sais, let's go, c'est ce que je fais. C'est les cours que je donne. Avant de faire l'humour, écoute, ça fait quoi? 5 ans que je fais de l'humour. Si on enlève cette merveilleuse année qu'on a passée. ça fait, en tout cas, ça fait 5 ans que je fais de l'humour, mais avant ça, je faisais de la danse, ça faisait 15 ans que je faisais de la danse avant ça. Donc, tu sais, j'ai comme 20 ans, 15 ans de scène. Tu sais, fait que ça fait en tout et partout 20 ans que j'ai de la scène dans le corps, que je step sur un stage, des fois, plusieurs fois par semaine, soit pour des battles, soit pour animer des battles, soit pour faire des spectacles de danse. Donc, la scène, je la connais, le monde, le regard du monde me dérange vraiment pas. Après ça, faut juste que je me concentre à être drôle. Mais le côté, ça fait des années, justement, j'ai de l'air d'avoir 20 ans d'expérience en, parle pas en joke nécessairement, mais j'ai de l'air d'avoir 20 ans d'expérience en confiance parce que j'ai 20 ans d'expérience en confiance. C'est aussi simple que ça.
Oui, le crossover, c'est la même parce que tu rentres en scène et tu dois être confiant de danser, même avec l'humour. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu as appris dans tes 5 ans de travailler en scène? Est-ce qu'il y a des choses que tu as réalisées? Non, je peux pas faire ça. Je peux pas commencer comme dans cette façon. Je dois commencer comme ça, comme ton technique maintenant. Est-ce que ça a changé pendant les années que tu fais l'humour?
Ben c'est sûr, il y a juste une façon de parler au crowd, parce que le côté confiance c'est une chose, mais après ça faut que t'aies en humour, il y a un certain crowd control, il faut que tu contrôles la crowd, faut que tu mènes la crowd. En danse, je vois sur le stage, les gens vont juger, mais que les gens aiment que j'aime pas, j'ai pas rien à contrôler, je peux rien faire, je vais juste continuer à faire mon truc, puis après ça je débarque de stage. En humour, là, il y a un truc de plus, le contrôle, que ça, faut que t'apprennes. Faut apprendre à contrôler un crowd, des hecklers, savoir quand rentrer dans un heckler, comme quand est-ce qu'il faut que tu deals avec le heckler, le ton de voix, certaines jokes, le débit. Il y a plusieurs choses, là. C'est pas juste, là, le débit, le type de joke, quel, tu sais, dans le fond, là, lire un crowd, lire une foule, tu sais, c'est ça. Parce que, comment tu vas lire va changer la façon que tu vas interagir avec. Puis qu'est-ce que tu peux faire pour maximiser ton rire. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça que ça m'a appris. Et en étant portier au bordel, ben c'est là que j'ai appris tout ça. C'est que je regardais le monde performer. Je regardais le monde, OK, il a fait telle affaire dans telle situation. J'ai vu à peu près toutes les situations. Ben, peut-être pas toutes les situations, mais j'ai vu beaucoup de situations dans le 2 ans. Tu sais, j'ai fait 2 ans et 4 mois là-bas. Chaque semaine, il y avait 9 shows, 9 à 11 shows au bordel. Si je travaillais pas, des fois, j'allais voir des shows en plus de ça. Fait que c'est beaucoup d'informations qui rentrent, beaucoup de situations que tu dois interagir dedans, beaucoup de façons de voir des choses. C'est, il y a beaucoup de trucs, là. C'est pas juste de dire des jokes, là. Faut que tu comprennes aussi what's funny.
Est-ce que tu peux te souvenir d'un moment qui a changé peut-être quelque chose pour toi? Je sais qu'un ami de moi, il s'appelle Dave Murray, je viens juste de parler avec lui, et il m'a vraiment influencée parce que je trouvais chaque fois qu'il rentrait sur scène, il disait quelque chose, toujours s'il y avait quelque chose peut-être en scène, quelque chose à tomber, ou il y avait quelqu'un vraiment drôle en avant dans le public. Et lui, il parlait toujours de quelque chose qui arrivait dans ce moment. Et je trouve que ça m'a vraiment changé la façon que je faisais l'humour parce que moi, j'étais toujours rentrée avec l'énergie et fais ton job, fais ton script. Et quand j'ai vu que chaque soir qu'il jouait, il était toujours très différent et toujours on. Et pour moi, c'était réaliser que la connexion entre public et humoriste, ça c'est number one. Sinon, je pense toujours au show quand c'était magique. Et si je rentre pas dans ce moment, c'est I'm calling it in. Mm-hmm. Alors pour toi, est-ce qu'il y avait des moments que tu peux souvenir de maintenant, un moment peut-être à Le Bordel ou même quand tu tournais avec Mike que tu as réalisé wow, ça va changer la façon que je joue.
Il y a 2 personnes que je te dirais, tu sais, je peux en nommer plein là, mais pour aujourd'hui, je choisis ces 2 personnes-là. Je commence à faire de l'humour, je pense que quand tu fais de l'humour, il faut que tu fasses, tu sais, une phrase, un punch. Tu sais, il faut que ce soit drôle tout le temps. Et là, je vois un gars qui s'appelle Simon Gouache arriver, puis juste prendre son... Simon Gouache arrive sur stage, first thing he does, il fait la même chose que tous les humoristes le font, mais lui, il faisait différent. Tout le monde, tous les humoristes vont arriver sur le stage, vont faire comme, « Hey, ça va bien tout le monde? Ouais, parfait, good. Hey, moi, l'autre jour, lui, il arrive sur le stage, puis il va dire, « Hey, comment ça va? » Il attend ta réponse bien. Ça va-tu bien? Ouais. Good. And then he ponders on that. Tu sais, c'est comme ça a l'air plus vrai. Tu sais, il pointe le monde. Il va pointer le monde qui le regarde. Il fait pas juste regarder un point au bout de la salle puis faire son texte au bout de la salle. Non, non. He garde, there's a connection avec les gens que j'adore. Puis ça, ça fait comme, OK, ça, je veux cette connexion-là. Je veux avoir cette connexion. Puis c'est ce dude-là qui m'a fait réaliser là, ça. L'autre personne qui m'a fait réaliser quelque chose, c'est Daniel Tirado. À cause de son débit, Daniel Tirado, puis le pire, c'est que je lui ai dit l'autre jour, puis il était comme, « What? I do that? Yeah, you do that, bro! » Puis, qu'est-ce qui est drôle? Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait? Juste qu'à un moment donné, j'ai dit ça, yo, tu fais ça, puis ça m'a changé, ça a changé ma vie. Puis il a fait comme, « Quoi? Je fais ça? » Puis il a dit, « Ouais. » Puis à un moment donné, on était sur le même show au bordel, un show que j'animais, et il l'a fait. Puis en le faisant, il a fait comme, oh shit, je sais pas ce que tu parles. Il au public, il s'adressait à moi au fond de la salle. OK, I know what you're talking about, bro. C'est juste pour Preach qui vient d'aller. Et ce qu'il fait, c'est ça. Toutes les personnes vont suivre la vague des rires, OK? Mettons, je vais dire une joke, puis tout le monde va faire ha 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 ha. Ouais, mais tout le monde va rire. Et là, moi, je vais profiter de ce rire-là pour boire ma gorgée. Le rire, il baisse en même temps que je baisse mon drink. Puis là, je vais continuer. OK, fait que là, après ça, what he does, yo, c'est tellement ballsy, mais j'adore quand il fait ça. Il va faire sa joke, fait que c'est comme ça. Puis tout le monde part à rire. Tout le monde arrête de rire. Il y a un silence. Il regarde tout le monde. Then he's gonna take a joke.
Il prend ses pauses.
Il prend ses pauses, puis il vit ses pauses.
Oh, il est si confortable avec son énergie aussi. J'ai vu ça. Je pense que j'étais là pour le show que tu animais à Le Bordel. C'était juste avant qu'on a fermé, mais même quand il rentre sur scène, si tu l'introduis avec l'énergie, il va rentrer et prendre son énergie.
Non. Il va prendre... Oui,
il reste dans son énergie.
Lui, il va... S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Daniel Tirado! Lui, il va arriver, tout le monde va... Wouh! Hey.
Yeah.
Il va juste fermer ça. Puis là, il va s'installer. Fait qu'il va prendre le temps de montrer c'est qui, lui.
Oui.
Il va pas nécessairement... Puis c'est le fun, des fois, rider sur comment que la personne t'a présenté, puis tu catches ça. Mais des fois, tu build up une assurance, comme Daniel. Ou est-ce que t'es fait comme... Attends une minute, je vais juste m'installer. là, t'es comme, who is this weirdo? Puis tu vas juste être plus attentif. Tu vas plus, le public est plus à l'écoute. J'ai vu lui prendre des pauses énormes. Évidemment, quand tu prends des pauses énormes, par contre, il faut que tu t'arranges pour que tes gags soient vraiment drôles.
Oh, yeah.
Sinon,
oh, yeah.
Sinon, ça devient juste awkward. Yeah. Sauf que il y a l'écoute du public. Le public est pendu à ses lèvres. Genre, c'est quoi la prochaine affaire qu'il va dire, ce gars-là? Puis ça, c'est les deux moments que j'ai fait comme, oh, wow, OK. S'il y a un silence, je veux vivre le silence. I gotta live that.
Mais comme tu as dit, si tu n'as pas des bons gags, non, ça va.
Faut que t'aies les gags pour le backup.
Yeah,
c'est que
exactement.
Daniel prend son temps, mais le punch qu'il va te donner est tellement gros que ça va make up pour n'importe qui, pour le moment que t'as pas ri. It's gonna make up for all of that. Les petits rires que j'ai faits que j'aurais pu faire dans ce temps-là, c'est comme s'ils ont packé ensemble, il a mis un turbo dessus, puis c'est encore plus drôle, tu sais.
Je sais que tu as une grande collaboration.
Collaboration, oui, c'est ça.
Il y a des mots qui sont vraiment difficiles en français, je trouve. collaboration avec ABBA.
Oui.
Je connais ABBA parce qu'il était dans un contest à Absolute Comedy et il a gagné. Et après ça, j'ai vu ton gala dehors à Juste pour rire. Mmh. Et maintenant, ça fait un an que je vois que... Je sais que tu faisais ça avant un an, mais tu as sur YouTube, ABBA ouais. Preach. Premièrement, comment est-ce que ça a commencé que vous deux, vous avez travaillé ensemble? Est-ce que tu étais des amis avant de travailler ensemble? Ou...
We're not even friends now.
Oh non!
Non, mais je t'explique, OK? C'est que, dans le fond, c'est un danseur, puis moi aussi, j'étais un danseur. Lui, il filmait beaucoup des battles de danse que je faisais, où il participait, puis moi, j'animais. À un moment donné, moi, je l'appelle pour faire pour filmer un des dance reels que je voulais faire pour faire la promotion de ma danse. Après avoir travaillé là-dessus, ça s'est super bien passé. Lui, il m'appelle pour faire un de mes projets. Le premier vidéo, est-ce que j'ai apparu. Lui faisait déjà des vidéos sur le web avant ABBA & Preach. Fait que là, lui m'a appelé pour faire un de ces vidéos-là, puis ça s'est bien passé. Après le vidéo, moi, j'ai demandé s'il voulait, parce que j'avais des affaires à dire sur le web, je voulais qu'il filme ou qu'il fasse juste le montage, puis que je le paierais. Il m'a dit non. Il m'a dit « let's do that together ». Au lieu que tu le fasses de ton côté, puis le fasses de mon côté, je pense que deux têtes valent mieux qu'une, donc on va juste le faire ensemble. Et puis the rest is history. On est des bons partenaires de travail, mais c'est ça là. C'est parce qu'on a le même goal dans notre tête, tu sais. Mais essentiellement, c'est ça. C'est pas genre un ami de longue date que j'ai décidé de faire ça. Quand on a fait nos vidéos au début, tu sais, we didn't know each other, là. On se connaissait vraiment pas, tu sais.
Mais je trouve que tu parles des choses qui sont vraiment taboues et difficiles.
Ouais.
Et maintenant qu'il y a si beaucoup de personnes qui écoutent et regardent, est-ce qu'il y a des moments difficiles, même entre vous deux, parce que tu as dit aussi que tu n'es pas vraiment des bonnes amies. Comment est-ce que tu... La balance de « oh, I don't care » s'il y a des gens qui m'écrivent des mauvaises choses. Comment est-ce que... How do you maneuver all that?
Ben, écoute, le fait qu'on ne soit pas des amis aide. Parce que si on a besoin de se parler, there's no feelings that are hurt. Tu comprends? Fait que c'est beaucoup plus
c'est professionnel. Yeah.
C'est très genre, c'est business. Quand on a besoin de se dire les affaires, on se dit les vraies affaires. On n'a pas besoin de I'm never gonna be like, jamais être comme, oh, I can't believe my friend did that to me or said that to me. Il n'y a pas de ça, là. C'est pas un ami. Fait que ça va. We just go as we go, puis on se dit les vraies affaires, straight up. Fait que ça aide beaucoup, je considère. Les commentaires, ça a déjà été un problème où est-ce que ça m'affectait. Au début, ça m'affectait beaucoup plus parce que tu sais, j'étais pas habitué à ça. Mais plus que t'en vois, plus que t'es comme, yeah, classic internet. Je dis pas qu'on est obligé ou qu'on doit absolument devoir faire face à ça puis que c'est bon qu'on fasse face à ça. Mais there's nothing I can do. Je veux dire, les gens, je peux rien faire pour ça. Je peux rien faire contre des gens qui vont avoir des commentaires, les commentaires qu'ils ont, malheureusement. Moi, la seule affaire que je peux faire, c'est continuer à faire qu'est-ce que je fais. L'affaire, c'est qu'il y a un, tu sais, ça dépend des commentaires, je veux dire. Évidemment, il y a des commentaires qui sont zéro constructifs, ils font juste comme, ah, ce que tu fais, c'est de la merde. Cool. Ben, ça m'aide pas. Mais et ça arrive que des gens arrivent avec des commentaires, ben, regarde, ce qui est arrivé, t'as fait ça, pis moi, je suis pas d'accord avec tel. Je peux discuter avec n'importe qui, il y a pas de problème. La discussion, c'est ça qu'on veut, essentiellement. On fait des sujets tabous parce qu'on veut que les gens, on veut pas que les gens soient d'accord avec nous, nécessairement. On veut que les gens soient capables de discuter de ça. de qu'est-ce qui se passe. C'est correct si t'es pas d'accord. Sois capable de discuter. On veut être capable, on veut discuter de tous ces problèmes-là, ces problématiques-là. Fait que les commentaires, malheureusement, quand tu t'exposes sur Internet, c'est ça, tu vas faire face à ben des commentaires. Il y a des gens qui vont dire un paquet d'affaires. C'est ça qui arrive. Ça vient avec s'exposer. Whether it's wrong or right, it is what it is, tu sais. Malheureusement, tu t'exposes à ça. Moi, je fais juste faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Puis c'est pas mal ça, ma job, essentiellement. Au début, oui, c'était rough. C'était vraiment rough, là. Hey, à un moment donné, là, il y a eu on a fait un vidéo sur Donald Trump, OK? Parce qu'il avait dit que Haïti était un shithole country. Faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. On explique comment Trump est, whatever. Le vidéo arrive à 125 000 views sur Facebook en l'espace de 2 semaines. Et là, on fait d'autres vidéos, nous. On continue à faire nos affaires. And then what happened was, c'est que là, Trump a dit une autre connerie, genre 4 semaines, 1 mois et demi plus tard. Et là, les gens voulaient chercher qu'est-ce qu'il avait dit. Fait que c'est arrivé, ils sont tous tombés sur notre vidéo. Et là, la vidéo est passée de 125 000 views à 800 000 views en l'espace de 4 à 6 jours. Et 80% de les gens qui venaient commenter aimaient pas ce qu'on disait, puis étaient des Trump supporters. C'était rough, là. On m'a traité de tous les noms. On m'a traité de tous les noms. Choisis-les. Bon, je l'ai eu.
Wow.
Ma mère, ma soeur, ma famille y a passé, tout le monde.
Oh.
Yeah. On a tout dit. Donc, ça dépend. Tu sais, c'était rough.
Et tu lisais ça ou est-ce que tu as décidé non, à un moment, je vais pas lire ça?
Je l'ai pas tout lu, mais à un moment donné, je veux dire, il y a un moment donné, j'ai pris un break de prendre et lire des commentaires. Quand on relisait une vidéo, je regardais la vidéo, je regardais pas les commentaires, puis je continuais. Des fois, faut que tu sois genre comme Cat Williams, il disait you have to be in line with your star player. Une affaire que j'arrête pas de répéter, cause it's true. Faut que tu saches toi-même quand c'est assez, là. Quand t'as trop de commentaires, c'est juste trop de commentaires pour toi. You gotta take a break. Fait que c'est ça que j'ai fait, tu sais. Mais il y a encore ben des commentaires, des gens qui commentent ou qui disent des affaires sans vraiment me connaître ou savoir qui je suis. Ça arrive, mais il n'y a rien que je peux faire pour ça, tu sais.
Je sais que tu as fait un show en Haïti avec Mike.
Oui, j'ai fait une couple de shows en Haïti.
Est-ce que c'était ta première fois en Haïti?
Ouais. Wow. Puis on a fait un documentaire à partir de ça. En fait, c'est un documentaire qui parle de la réalité des immigrants de deuxième génération. Tu sais, où est-ce qu'on se situe? Parce que moi, en grandissant, mes parents disaient que j'étais Québécois, mais les Québécois disaient pas que j'étais Québécois, ils disaient que j'étais Haïtien. Fait que... Where do I fit in? Tu comprends? C'est un peu ça. Mais oui, on a fait des shows là-bas. J'ai été avec Mike, avec plusieurs personnes. Rachid était là-bas et tout et tout. That was really fun.
Est-ce que ça se fait que c'était ta première fois en Haïti? Est-ce que ta mère et ton père allaient en Haïti?
Mon père allait en Haïti. Il s'est servi plusieurs fois que j'avais l'opportunité d'aller en Haïti, que finalement, j'ai pas pu y aller à cause que something went down or whatever. Fait que c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas parce que je voulais pas y aller.
Moi, j'étais là quand j'avais 13 ans. Il y avait un coup d'État. Avant ça, Duvalier a parti. You know, il y avait toujours... Mon père a même eu un accident et c'était le tonton Macoute qui était dans l'autre voiture. Et il a resté là pour un mois. Et moi, on sait jamais si ça va être une bon temps d'aller en Haïti.
Moi, je voulais y aller. Même que quand on avait été, c'était en 2018. Depuis 2018, j'ai voulu y aller. I'm looking at my dad, puis je suis comme, yo, pas... Let's go down, tu sais. Puis à chaque fois... Il y a un truc qui se passait là-bas qui faisait en sorte que je peux pas y aller, tu sais. Yeah. J'attends le bon moment, j'attends que le président s'en aille pour que les choses se calment juste un peu. Le fait que le président s'en aille, là, présentement, là, ça va pas régler rien, mais ça va genre calmer les choses un peu, j'ose espérer. Et là, quand je vais avoir ce window-là, je vais y aller 1-2 semaines, papa, puis that's it, là, tu comprends?
Et comment était le public? Est-ce que c'était facile de faire l'humour là-bas ou?
Ben, j'ai modifié mes blagues, j'ai modifié des choses. Tu sais, le public, le number one thing en humour, la chose numéro un en humour, c'est les référents. Si les gens ont pas les mêmes références que toi, ça rira pas. C'est moi qu'il faut qu'ils m'adaptent, c'est pas le public, tu sais. Pour moi, je trouve des références. Fait que moi, j'adaptais mon humour à la réalité d'Haïti. Il y a pas de tout que tu peux parler. Tu peux pas parler nécessairement de...
Yeah.
Mais je peux pas commencer à bâcher la religion. Je peux pas commencer à arriver puis parler de politique comme ça. Je viens de l'extérieur, je parle de politique, je suis pas un haïtien. Tu sais, ça peut être chaud, tu comprends? Donc, je choisissais mes combats. Mais non, j'ai réussi à faire rire. Moi, j'ai réussi à faire rire. J'ai réussi à comprendre le pays. J'ai réussi à comprendre d'où est-ce que mes parents vivaient. J'aurais par contre voulu y aller bien avant, mais ça a donné jamais, tu sais.
Et dans ta carrière, ta plus grande défi ou un temps même difficile dans ta carrière que peut-être t'étais confus, t'étais pas certain qu'est-ce que tu voulais faire, un temps que peut-être tu voulais pas le faire? Est-ce que tu as eu des moments où c'était difficile?
En humour, non. En danse, oui, parce qu'il y a tellement pas d'avenue là-dedans. Tu sais, c'est très difficile. Non seulement ça, pendant que je faisais de la danse, moi, j'avais un 9 à 5, là. Le problème, c'est pas quand que je faisais de la danse. Le problème, c'est quand je faisais plus de danse. Mm. Le problème, c'est quand j'arrêtais de faire ce que j'aimais pour aller faire ce que je faisais pour subvenir à mes besoins, là. Pay the bills, là. Tu comprends? J'avais une grosse compétition la fin de semaine, genre un 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Je vois du monde de partout dans le monde. Je compétitionne. Je gagne pas nécessairement où je me rends en finale. Le monde adore ce que je fais. Le monde capote. I got a high. Puis là, le lundi matin, j'arrive. Merci d'avoir appelé Rogers. Mon nom est Eric. Est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone par le code général? Mais fucks you up, tu sais.
Yeah.
C'est comme, oh, I'm in this job that I don't really want to do. Puis là, je viens d'avoir ce high-là. Smack back to reality. C'est pas le fun, là, tu sais. C'est ça le moment rough, c'était retourner à mon 9-5. Mais là, depuis que je fais juste de l'humour, je fais ce que je fais de la danse quand je veux, je fais de l'humour quand je veux, là, ça va, because I'm doing actually what I want. So no matter what the pay is, tu sais, il y a un bout de temps où est-ce que je suis en train de struggle avec l'humour, avec l'argent et tout, mais j'aimais mieux struggler là-dedans, puis d'être heureux, my soul was at ease, it was better, que travailler dans un bullshit job, que au moins j'étais sûr d'avoir un paycheck à chaque mois, mais j'étais pas bien, tu sais. That was the rough part.
Mm. Quand t'étais doorman à Le Bordel, t'avais le désir d'être partie de cette chose qui était magnifique, qui, tu voyais la magie. Quand est-ce que t'as fait la décision? Tu pensais pour longtemps que tu voulais arrêter de faire un Joe job? Ou est-ce que t'avais pas le choix? T'avais une opportunité, c'était comme fuck it, on y va.
Ben, Abba arrêtait pas de me dire, yo, faut que tu commences à faire ça 100%, sinon tu pourras pas le faire. Tu fais juste ça, pis c'est pas bon. Comme, la minute que tu vas décider de sauter là-dessus, la minute que ça va être bien. Pis là, j'étais tout le temps, je suis pas prêt. Pis là, malheureusement, au bordel, s'est passé un événement où est-ce que j'ai dû dire à deux gars d'arrêter de parler dans un show. They didn't like it. Ils étaient intoxiqués. Alcohol, drugs, whatever. Pis les deux gars m'ont sauté dessus.
Oh.
C'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais c'est quelque chose qui arrive. T'as de l'alcool, t'as des humains, ça arrive.
Mm.
I had to fight 2 guys off my back. J'étais 3 ans en cours à cause de ça.
Oh, shit.
Why? I lost hair. Like, they pulled on my hair. Mm. Fait quand ça s'est arrivé, j'ai fait comme, hey, you know what? I'm done. Puis j'ai fait comme, j'ai remis ma démission. J'ai eu mon 2 semaines de préavis, puis après ça, j'ai fait ça temps plein.
Mm.
Was I scared? Yeah, les 2 premiers mois, là. Ou septembre, octobre, là. Mais... Après ça, j'ai tu sais, quand tu sais pas où est-ce que le prochain paycheck qui rentre, là, c'est fucked up, là, tu sais. Thank God I got people around me that support me, so that's good. Mais c'était rough, là, les 2 premiers mois, puis 3 premiers mois, puis après ça, ça s'est calmé, puis tu sais, j'ai continué à travailler fort, puis trying to knock every opportunity out the ballpark. Tout ce que j'avais, là, j'essayais, genre, quand je monte sur stage, faut que je défais tout. Quand tu sais, c'est ça le but, là, faut que tout se passe, puis là, ben, ça va bien, tu sais, je peux pas me plaindre. Évidemment, c'est un gros privilège, mais ça va. Mais la fois que j'ai fait comme, all right, I'm done, c'était à cause de ça.
Quand j'étais à Vancouver, j'avais fini à l'école de théâtre et je travaillais comme serveuse et j'étais vraiment si fatiguée à la fin de la semaine. Je trouvais, j'avais pas d'énergie de faire, je suis pas juste humoriste, aussi peintre et j'avais pas l'énergie d'être créative, de faire l'humour, de faire mon art. Alors, finalement, j'ai décidé, OK, pour une semaine, je vais faire juste l'humour. Je vais travailler sur ça et faire mon art. Et c'était incroyable parce que moi, je crois que l'univers, pas toujours, mais si on veut quelque chose et on met cette énergie avec l'univers, l'univers va nous donner quelque chose. Parce qu'à la fin de la semaine, j'ai eu un contrat de 1 300 $ pour aller à l'aéroport à Vancouver et faire des personnages pour faire rire quand les gens entraient dans l'autobus pour aller voyager. Et c'était, pour moi, c'était juste un, OK, continue à faire ce que tu veux full time, parce que si je suis une serveuse et je fais ça tous les jours, tout le temps, l'énergie, c'est ça ce que je vais devenir, un full time waitress, lifetime, ouais. Lifer.
Mais, there's nothing wrong with a waitress, a lifer waitress. C'est juste que si c'est pas ça que tu veux faire, get out of there.
Et même faire ce podcast, je veux parler en français et je veux travailler en français. Alors, j'essaie de dire à l'univers, je veux parler et jouer en français parce que vraiment, je préfère français. Quand j'étais en primaire, je parlais seulement français à l'école, mais c'était une retraite de méditation que j'ai fait. J'ai fait 5 retraites de méditation en silence, comme 10 jours de silence, mais j'ai fait ma première en français en 2015 et c'était à Montebello. Et tout le monde parlait français. Et après 10 jours de pas parler, j'avais tous des blagues que je voulais pratiquer avec ces personnes qui méditaient, qui parlaient pas pour 10 jours. Alors, j'étais forcée de faire rire les francophones. Et c'était à ce temps-là que j'étais comme, oh wow, peut-être je peux être drôle en français.
Ça fait combien de temps, ça?
Pardon. Ah, ça, c'était en 2015.
Mm-hmm.
Yeah. Parce que, mais je trouve que le public francophone, ils sont si chaleureuses. Parce que ça fait longtemps que je travaille avec le public anglophone et c'est pas impossible, mais c'est difficile.
C'est
parce
qu'ils
analysent les blagues, toujours.
Ouais. Puis en français, c'est pas qu'ils analysent pas, c'est juste qu'ils sont vraiment contents de rire. They really love laughing. Like, au Québec, quand j'explique quelque chose comme quand l'humour au Québec en français à des personnes qui viennent pas de là, je leur dis, ben, nous autres, on est des rockstars. On n'a pas beaucoup de rockstars. Les rockstars au Québec, c'est les humoristes, là.
Mais il y a un article qui parle de ça, que les gérants de André Gagnon, I think Faneuf, pour eux, c'était musique. Ça, c'était le focus. Et ils ont changé
Faneuf,
musique to comedy, yeah.
Oui.
Yeah, yeah, because they're the rockstars.
Spécialement là, maintenant, c'est pas la musique qui fait de l'argent comme ça, tu sais. On dépense beaucoup plus d'argent au Québec en humour qu'en tournée.
Mais même aux États-Unis, il y avait un temps que maintenant Kevin Hart fait des, pas maintenant avec la pandémie, mais les stadiums, Sony Center à Montréal, is it AMC, Centre Bell. Il y avait un temps que les humoristes faisaient pas l'humour dans des grandes salles comme ça, mais maintenant non, on voit pas beaucoup de bandes de musique, like I know the Stones come through, but there's not a lot of musicians coming through anymore.
Il y a vraiment beaucoup moins de chanteurs qui font des grosses places que des humoristes. Puis je parle des chanteurs établis, là. Tu sais, Linda Lemay fera pas le Centre Bell.
Non.
Elle va faire Bercy, par exemple.
Mm.
En France, elle va avoir plus de monde, mais évidemment, en France, ils sont plus. Mais non, c'est ça. Les humoristes, c'est des rock stars, là, au Québec. Mm.
Speaking of rock stars, Mélanie Couture et toi, tu fais un podcast qui s'appelle Les Fallops.
Ouais.
Quand j'ai vu hier que tu as fait position favorable au sexe oral et Mélanie a dit « Oh, BDSM, just casually », je pensais, parce que mon père était vraiment strict, il était très typique d'un père haïtien.
Ouais.
Il me disait « Tu dois attendre au mariage pour avoir le sexe. » Moi, je pourrais pas même avoir un chum jusqu'à 18 ans. J'étais une vierge jusqu'à 21 ans. Alors, je me demandais, est-ce que tes parents étaient catholiques et est-ce qu'ils sont encore très stricts? Et je demande ça parce que mon père disait toujours, Rachel, je veux que tu fais l'humour Seinfeld, le type d'humour que Seinfeld fait, l'humour que tout le monde peut le voir et rire. And I was always like, oh, j'aime Seinfeld, mais pas comme ça. Je voulais jamais être Seinfeld. I am a bit trash. Right?
Which is fine.
Alors, je me demande comment est-ce que... Et mon père, il est décédé et moi, j'ai changé la façon que je fais l'humour après que mon père a décédé parce que je sentais pas libre parce que mon père, il jugeait ça un peu. Alors, je me demande comment est-ce que ça se fait que tu fais un podcast si risqué?
Ben, en premier, I don't care. I don't care what they think. This is my life. Mais de deux, mes parents, ils n'étaient pas catholiques, ils étaient protestants. Ils étaient vraiment beaucoup plus ouverts que beaucoup d'autres parents haïtiens. Ils étaient très avant-gardistes. Il y a ça qui est bon. Tu sais, mes parents étaient pas... Oui, ils étaient stricts, mais ils étaient pas nécessairement dans le stéréotype de certaines choses, tu sais.
Mm.
Ils étaient beaucoup plus ouverts que beaucoup d'autres parents que j'ai connus et que je connais encore dans la communauté, dans les communautés. l'affaire qui arrive, c'est qu'il y a certains, trucs pour les Haïtiens qui m'énervent un peu, comme le tabou, les tabous, le fait qu'on peut pas parler de rien et tout, everything is a tabou. Moi, je suis zéro pour ça, ça m'intéresse vraiment pas. Donc, essentiellement, vu que ça m'intéresse pas, je veux parler de des vraies affaires, des vrais trucs. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, pas moi, mes parents nécessairement, mais d'autres gens qui sont dans une situation où est-ce que ils entendent pas parler de sexe, la seule fois qu'ils entendent parler de sexe, c'est quand ils regardent du porn ou whatever, which is not reality. Puis je voulais parler des différents trucs que les gens trouvent tabous, la vérité essentiellement. C'est pour ça que j'ai ça. Après ça, ce que mes parents ils pensent, if you don't like it, don't watch it. Moi, je vais continuer à faire et à dire qu'est-ce que j'ai à dire. If you don't wanna, si tu t'aimes pas ça, regarde-le pas, c'est tout. Tu peux toujours regarder autre chose, là, y a pas de problème.
Et est-ce que c'était même une conversation ou pas vraiment?
Ça a déjà été une conversation, oui, à cause des affaires que je poste, mettons, sur Internet et tout. Ma mère est comme, oh, on est venu me voir, whatever. J'étais comme, puis j'ai bloqué ma mère de Facebook. Genre, she's not my friend on Facebook.
Oh, okay. Mais
comme ça, tu les verras pas. Et comme ça, t'auras pas de plainte. There you go.
Yeah.
J'ai demandé à ma mère qui s'est plaint. Puis les personnes qui se sont plaintes, je les ai enlevées. T'sais, don't go see my mom. Go see, comme si I'm a grown-ass person. Excuse my language. Mais t'sais, viens me voir moi, t'sais. Mais si t'aimes pas ça, essentiellement, tu peux changer de camp, il y a pas de trouble. Mais moi, je considère que c'est important de parler de ça. Ces tabous-là, je suis pas down avec ça, avec le fait qu'il y ait des tabous et tout.
Bien, je pense que c'est ça m'inspire ce que tu fais avec Mélanie. Et c'est même avec ce que tu fais avec Abba, c'est la même chose, mais juste différente sujet.
Exactement.
Mélanie était un sexologue.
Mais elle était, elle était à l'école pour ça. Puis évidemment, il y a des trucs qui ont changé et tout. Fait que c'est pour ça qu'on a tout le temps des professionnels qui travaillent encore dans le domaine puis qui se renouvellent pour nous parler des différents sujets. Elle a ce truc-là. Puis aussi, j'aime beaucoup sa drive. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça avec elle.
Et les podcasts que tu fais, est-ce que ça influence ton humour quand tu retournes à faire le stand-up?
Ça aide mon humour. Parler devant une caméra, ça aide mon humour. Ben la caméra aide mon humour aide la caméra. T'sais, c'est des trucs qui sont comme, c'est des trucs qui, c'est ça va ensemble. Donc un aide l'autre aide l'un.
Mais tu travailles avec, tu parles de des tabous et tu pousses les sujets qui sont difficiles. Est-ce que ça j'imagine ça va influencer?
Oui, absolument.
Les choses que tu décides de parler de
absolument.
Quand tu crées des blagues.
Je veux parler des tabous, j'ai pas de problème avec ça. Puis là, tout ce qui reste à faire, c'est trouver l'angle qui va être comique dans ce tabou-là. Mais oui, je vais parler des tabous, je vais parler des trucs que les gens veulent pas parler, tu sais. Ou avoir un angle qui va être un peu plus crunchy. Pas pour choquer, mais parce que il y a des gens qui pensent comme ça, puis on va aller défaire ce tabou-là. Mais on va le faire en riant.
Yeah. J'ai une autre question pour toi, Preach.
Pas trouble.
Ta process d'écrire les blagues, tout le monde a des vraiment différentes façons de travailler, même pour les one-man show. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent pour 10 ans pour faire leur première show. Il y a des personnes qui veulent écrire leurs blagues chaque journée, une heure. Quel est ta process pour écrire les blagues et jouer les blagues, améliorer tes blagues?
Moi, qu'est-ce qu'il faut, étonnamment, comment que je fonctionne, c'est que j'ai des idées dans ma tête. Fait que là, je les écris, une succession, des trucs que je trouve drôles. Mettons, j'avertis mes amis, là, quand on avait le droit de voir des personnes. J'avertis quand, puis on a un gathering chez nous, là, whatever, là. J'avertis tout le temps tout le monde, là. If I'm speaking, puis il y a de quoi qui fait rire tout le monde que j'ai dit, je vais prendre mon téléphone, puis je vais le noter. Après ça, je vais prendre les affaires qui se ressemblent le plus, je vais les mettre en bullet point, puis je m'en vais dans un open mic. J'ai pas vraiment la formulation, mais faut que je vomisse ce que je pense de drôle avec l'interaction. Fait que j'utilise le open mic comme un laboratoire. J'ai pas la formulation de la joke nécessairement. Il y en a que j'en ai, il y en a que j'ai pas. Puis après ça, je vais aller trouver où est-ce que je veux m'en aller là-dedans. Après ça, je m'enregistre vidéo parce que je fais des faces, je fais des mimiques. Puis après ça, je vais aller commencer à écrire. En premier, il faut que je gather je récolte des idées et après ça, faut juste que je le fasse. Me planter dans un open mic, c'est pas un problème. C'est fait pour ça. Fait que si ça va moins bien ou pas bien, c'est pas grave. C'est fait pour ça. Fait que je vais aller vomir ça là.
Vomir tes blagues.
C'est comme ça que j'appelle ça. Parce que je fais juste faire bullet point. Je dis ce que j'ai à dire là. Juste 5 minutes. Fait que je dis ce que j'ai à dire. T'sais, où je pose des questions. J'ai une interaction. C'est ça. C'est pour ça que je dis vomir parce que c'est un peu ça. Je sais pas c'est quoi en ordre. Quand je dis je vomis, c'est ça. Je sais pas c'est quoi quand que ça sort. Après ça, quand que ça sort, je suis comme, oh, all right, I have beans and corn. Je le mets together après, là. Je le mets ensemble après, puis je l'analyse après, puis là, je suis capable de faire quelque chose, là, de le reconstituer, mettons.
Well, merci, Preach. C'était un vrai plaisir de t'avoir ici.
Ça fait plaisir, anytime.
Cut! All right. Well, great to see your lovely face. That's a good thing about podcasts. At least you get to see people, right? Oh,
all right.
Yeah. All right. Well, hang in there.
No problem. Yourself as well.
Toodaloo.
Take care of yourself.
Bye. Cheers.